Bonjour Serge Madjani. Vous avez actuellement, encore pour cette semaine, une double actualité au Théâtre des Abbesses avec le Faiseur de Balzac dans une mise en scène d'Emmanuel de Marcimota jusqu'au 12 avril. Et également un seul en scène, Nous n'irons pas ce soir au paradis, où vous nous racontez l'enfer de Dante, et ce jusqu'au 11 avril prochain. Donc c'est plutôt ce spectacle voilà, qui a retenu notre attention. Mais alors, justement, ce spectacle, c'est une reprise en fait de ce qui avait été créé en 2008 à Avignon.
Non, c'est pas une reprise parce qu'en 2008 c'était tout à fait autre chose. C'était à la Cour d'honneur. C'était l'année où on avait demandé à Castellucci de faire la trilogie Dante, magnifique. Il a fait trois choses magnifiques. Et à cette occasion, à Valérie Dréville, qui était cette année-là artiste invitée, on lui a demandé d'organiser une lecture. Par contre, parce que Castellucci lui ne s'occupe pas de lecture, il fait un tout autre travail tout aussi magnifique. Et donc, on a demandé à Valérie Dréville d'organiser une lecture avec des acteurs très prestigieux. Il y avait Serge Merlin, Michael Lonsdale, Recep Mitrovica, Dominique Valadier, Valérie Dréville. Et moi, elle m'a demandé de participer d'une manière comme comédien. Et puis, comme je suis italien, eh bien, j'étais l'italien de service. Et comme j'étais le seul à avoir lu Dante, eh bien, voilà. Ils ont abusé de moi et je me suis laissé faire et on a travaillé des mois en amont à essayer de comprendre ce qu'on disait parce que c'est pas accessible comme ça
C'est clair.
pour les Français, quoi. Moi, j'ai l'avantage d'être italien. Alors, c'est juste un tout petit avantage, quoi. Je sais qui est Dante. Voilà. Je le sais juste un tout petit peu plus, quoi. Alors, on a fait un magnifique travail des mois. On se réunissait comme ça. C'était, je disais, c'est des vacances studieuses, quoi. Alors, on accumulait des notes pour savoir les chants, choisir quel chant, tout ça. Bon, après, c'est Valérie qui a distribué le travail, et voilà, la soirée s'est passée magnifiquement. Il y avait un vent dantesque dans la cour d'honneur. Tout le monde était content. Je sais pas si tout le monde a compris tout, mais enfin, c'était une soirée très belle, vraiment très belle. Quand moi, je disais les textes en italien à l'occasion, et donc, quand je parlais sur le mur historique de la cour d'honneur, il y avait une machine qui projetait le texte en français, c'était très impressionnant. Et puis moi, je me suis posé la question, après ça, je me suis posé la question, je me suis dit, mais si je devais le dire à des gens qui ne sont pas un public, ce public-là d'Avignon, enfin des gens plus normaux, quoi, je veux dire, voilà,
Profane,
plus profane, oui, c'est ça. Comment est-ce que je ferais? Et l'année qui a suivi, je répétais un spectacle tout autre au théâtre de Nogent, je me souviens, et le directeur m'a dit un jour, tu voudrais pas faire une lecture de Dante? Et alors, les cheveux me sont dressés sur la tête, et c'est là où j'ai eu l'idée. J'ai dit, puisque j'ai pas la machine à traduire et que c'est trop lourd, une chose comme ça, il faut un dispositif, faut tout ça. Est-ce que si j'essayais de raconter seulement, de le raconter comme ça, de raconter un peu l'histoire, toutes ces notes qu'on avait accumulées, eh bien, de les raconter. Et puis, si on n'a pas la machine à traduire, eh ben, je vais faire la machine à traduire. Voilà. Et donc c'est voilà, c'est venu comme ça.
Mais alors d'où vient cette passion? Donc le travail, voilà, on a bien compris comment c'est venu et comment l'idée, mais votre passion pour Dante, finalement.
La passion Dante, vous savez, on a beaucoup de passion dans la vie, heureusement. Hein, Dante, Dante. Je disais que je suis italien. Alors, vous savez, quand on est italien, Dante, il est à table avec nous. Il est dans la vie avec nous parce qu'il n'a pas seulement inventé une langue, il a inventé aussi un langage. Il y a 1000 expressions de Dante qui sont en Italie toujours utilisées pour dire qu'on a peur, pour dire qu'on a rencontré l'amour de sa vie, pour dire tout ça. C'est des vers de Dante qu'on utilise, des vers de Dante pour dire si on s'est rencontré dans tel dancing. Eh bien voilà, l'entremetteur, c'est ce dancing-là. On dit Galeotto, et questo. donc, et tout ça, on reprend par exemple un vers du chant 5. Et voilà, alors Dante, il est un petit peu en transfusion des Italiens.
Et d'ailleurs, il y a sa présence dans une petite chapelle donc à Florence, je suis passé, qui est donc sa chapelle qui lui est dédiée.
Oui, une petite
chapelle. Qui est très très vieille. Mmh. Alors en fait c'est une jolie promenade à laquelle vous nous conviez, où la musique des mots se mêle au chant de l'œuvre de ce célèbre poète. Alors comment avez-vous créé plus spécifiquement cette pièce, où vous avez mélangé habilement d'ailleurs, parce qu'on est vraiment pris dans le récit, des passages de la vie de Dante et des extraits de son œuvre?
Ben oui, c'est ce que je vous disais, c'était les notes. Je me suis dit, bon, ben, parce que Dante, il fait un petit peu peur, à juste titre, parce que surtout pour... vous savez, si j'étais italien en Italie, ça serait pas difficile de dire du Dante. Vous vous asseyez ou vous vous mettez debout devant des gens et puis vous dites du Dante. On fait du Dante en Italie depuis Dante. Dante lui-même devait faire du Dante parce que c'est une langue qui se dit, quoi, qui se projette, quoi. Donc là-bas, il n'y aurait aucune difficulté parce qu'on est de plein pied avec cette langue-là. Dante a inventé l'italien, mais c'est de l'italien toujours moderne. Je veux dire, c'est pas comme en France où le vieux français doit être un peu traduit pour qu'il soit compréhensible souvent. Là, Dante, il est accessible immédiatement. Alors évidemment, dans une langue étrangère, le français, il n'est pas accessible facilement. Alors je me suis dit, bon ben voilà, je vais les guider un petit peu dans le monde de Dante, je vais leur raconter des histoires, je vais les étourdir un peu, et puis quand ils seront un petit peu étourdi, eh ben on peut glisser du Dante. Oui. Et après, moi, mon rêve, vous savez, on a des rêves quand on fait des spectacles. Après, s'ils sont réalisés, je ne sais pas. Mais mon rêve au départ, c'était que à la fin du spectacle, à la fin, quand je dis le chant 5 en italien, alors qu'il vient d'être traduit presque mot à mot, vers à vers pratiquement, c'est que le public français, sans s'en rendre compte, comprend l'italien.
Ah oui, mais c'est ce que je vous disais, c'est toute la force de votre spectacle, c'est que voilà, on verse dans le Dante sans se rendre compte. On chemine avec vous dans les rues de Florence au XIVe siècle et on est là et tout d'un coup on nous chante du Dante et voilà, on y est. C'est vraiment magique. Et pensez-vous que Dante, alors si j'ai bien compris, finalement en Italie, il est en osmose avec la langue, avec la vie, bon, est toujours d'actualité, ses valeurs,
toujours,
sa philosophie.
Toujours. Vous savez, Dante a inventé la langue avant l'unification de l'Italie. En fait, il a unifié l'Italie par la langue 7 siècles avant l'unification de l'Italie, parce que pour des raisons historiques complexes, mais qui datent du temps de Dante, l'Italie a mis beaucoup de temps. C'est la plus jeune constitution d'Europe, c'est un des plus jeunes pays d'Europe. Il est de 1860, l'unification de l'Italie, et la constitution, elle est de 1947, donc ça a mis beaucoup de temps. Et ça a mis beaucoup de temps aussi à cause des grands ennemis de Dante, des ennemis, je parle du temporel, c'est les papes, qui étaient les grands ennemis de l'unification de l'Italie, puisque tout ce que voulaient les papes, c'était la désunification pour pouvoir régner. Et donc, d'où sa haine et sa rage, notamment contre Boniface VIII, ce terrible pape, qui est une esquisse de tous les Berlusconi qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Donc il est toujours d'époque. La corruption, quand il parle de la corruption, des politiques, tout ça, non, rien n'a bougé en Italie et ailleurs aussi. Et puis il y a une chose aussi, moi, qui me plaît beaucoup et que j'ai essayé de faire ressortir dans ce travail sur Dante, c'est la place des femmes. Parce que c'est une chose assez étonnante du temps de Dante, parce que c'est lié aussi au troubadour, à la poésie courtoise, à la poésie française. Vous savez, l'Europe en ce temps-là était beaucoup plus européenne encore que maintenant. Les gens, les idées, la poésie, le commerce même circulait d'une manière incroyable. Là, on en fait tout un plat parce qu'on va de l'Espagne à Anvers, mais on le faisait là-bas. Je veux dire, Saint François d'Assise s'appelait François un siècle avant Dante, s'appelait François parce que sa mère était française. Saint François d'Assise, c'est le premier à avoir inventé le prénom de François, et il allait au marché du Nord de Lille et enfant. Donc l'Europe était une réalité. Et aussi la situation des femmes qui a changé en ce moment-là. À ce moment-là, on était encore dans une époque un peu talibane. On n'en est pas encore tout à fait sorti, hein. Mais chacun aurait beaucoup à dire. Mais en tout cas, la situation des femmes a beaucoup changé à ce moment-là, et je le raconte, et ça me plaît beaucoup de le raconter, parce que ça intéresse. C'est vrai que c'est intéressant, quoi. Ça s'est transformé par rapport à la Sainte Vierge, par rapport à l'idée de la Sainte Vierge, quoi. Dieu était si terrible en ce temps-là, alors on s'est tourné vers la Sainte Vierge, vers Marie pleine de grâce. Elle est née, on peut dire que l'événement de la Sainte Vierge est venu à ce moment-là, mais ça a eu un effet considérable sur les femmes, c'est-à-dire que ça a changé l'idée des femmes, et la vision des femmes. Et donc à Marie, à la Sainte Vierge, oui, les prières et l'amour, mais aux femmes, les poèmes et l'amour. Et les femmes, l'existence des femmes a totalement changé à cette époque-là. Et Dante est un grand poète des femmes, était un grand amoureux des femmes et du plaisir. Il le dit d'une manière indirecte. Il dit que s'il était un damné et s'il descendait aux enfers, il irait au champ des luxurieux. Voilà. Donc, mais il y a du sang, il y a tout un dédale de sens chez Dante aussi. Il faut comprendre aussi que la luxure, que ce qu'on appelle le péché de chair, c'est aussi le péché de la connaissance. La luxure, c'est la connaissance. Alors soyons luxurieux.
Tout à fait. Alors, votre spectacle donne l'impression d'être interactif, puisque vous vous adressez au public pour peut-être le faire davantage pénétrer dans l'époque et l'univers de Dante. Alors que vous avez choisi donc de prendre le public à témoin. Alors pourquoi ce parti pris?
Ah, mais c'est pas moi qui ai inventé. Moi, je ne fais que obéir à Dante, parce que Dante parle à son public. Ouais. Il parle au lecteur. Il parle au lecteur et il interpelle le lecteur. Et il le tutoie même. Il dit pense à l'étour. Ma pense à l'étour. Pense. Pense un peu, lecteur. Et en fait, on dit que c'est peut-être ça le grand message de Dante, c'est pense, quoi. Et effectivement, depuis le XIVe siècle, Dante fait penser, et c'est un des auteurs, un des poètes qui a fait le plus écrire sur lui, qui a engendré le plus de, enfin, une somme considérable d'ouvrages et de pensées, parce qu'on s'intéresse, c'est un monstre d'intelligence, Dante. Je veux dire, là, des fois, je dis des vers, mais on pourrait passer 3 heures à expliquer un seul vers, quoi. Parce que tellement les mots sont imbriqués de telle manière. Ouais. Est-ce que ça veut dire ça? Oui, mais là, il a mis l'apostrophe, donc ça veut peut-être dire ça, donc ça veut dire ça, mais comment? Et tout ça, c'est toujours de la pensée, quoi. C'est toujours, il a écrit de la pensée vivante.
Alors, après avoir dressé un portrait de Dante et proposé donc des fragments de son œuvre durant tout votre spectacle, vous terminez sur une vidéo de Sylvana Mugiano. Alors, quel est le lien que vous tissez, justement, on parle là des siècles, avec cette œuvre moderne?
Eh bien, moi, ce que je voudrais, c'est de ne pas répondre. Non pas que je ne sais pas répondre, mais je ne voudrais pas répondre. Je voudrais que... parce que, en fait, tout ce que je raconte dans le spectacle, je réponds à la question. Je raconte, quoi. Tout est clair, tout est lisible, quoi. Et il y a juste une chose qui pose question, qui ne pose pas question, parce que chacun y répond, en fait. Chaque spectateur, je pense, y répond. C'est une vidéo de la plus de la plus belle femme du monde, qui est Sylvana Mangano, et qui danse une chanson, une danse un peu sexy, on dirait, très émouvante, on dirait. et voilà, c'est l'enfer, c'est le paradis, c'est la beauté. C'est un absolu. C'est un plaisir aussi, parce que la poésie, c'est aussi le plaisir.
Et alors, est-ce qu'il y a des dates de tournée prévues pour ce spectacle ?
C'est en train de se mettre en place maintenant.
Bon, voilà. Mais vous écouterez des heures, c'est tellement passionnant. Je vous remercie beaucoup.
Mais c'est moi.